Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous écoutez notre podcast, on va parler de l'élection présidentielle américaine avec un regard spécifiquement porté sur les médias face à l'incertitude des résultats.
We were getting ready for a big celebration.
On se préparait à faire la fête. On gagnait tout, sur tous les plans. Et tout à coup, tout a été annulé.
La soirée électorale américaine a en fait duré plusieurs jours. Les médias d'information, à qui l'on reproche souvent de tourner en boucle sur un sujet, ont dû faire ça comme rarement. L'incertitude a débuté dans la nuit du 3 au 4 novembre. On a pu la vivre depuis l'intérieur des bureaux de l'agence France Presse à Washington, grâce à un épisode du podcast 2020 de l'AFP, produit par Antoine Boyer, qui sera avec moi tout à l'heure.
Donc voilà, l'alerte dit USA, fermeture des bureaux de vote dans l'état clé de Géorgie et 5 autres états.
Vous entendrez aussi Sébastien Mohr, spécialiste des médias conservateurs américains. Avec lui, on regardera comment Fox News, entre autres, a géré les résultats de ce scrutin. Mais tout de suite, et puisque cette élection est encore l'objet d'une bataille de chiffres, j'ai fait appel à un responsable d'un institut de sondage. Mathieu Gallard est directeur d'études à Ipsos France et il a suivi de près les élections américaines.
L'atelier des médias.
Bonjour Mathieu Gallard.
Bonjour.
En 2016, les instituts de sondage s'étaient magistralement plantés, ne voyant pas du tout venir la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton. Alors cette fois-ci, ils avaient vu venir une victoire de Joe Biden, mais une victoire qu'on aurait pu imaginer un peu plus franche.
Les sondages prévoyaient effectivement une victoire de Joe Biden, ce qui s'est produit. Ils disaient que Joe Biden serait nettement en tête au niveau national, ce qui est le cas aujourd'hui, vu que Joe Biden a environ 5 millions de voix d'avance actuellement, mais qu'il reste encore une douzaine de millions de bulletins de vote à dépouiller, la plupart du temps dans des États démocrates. Donc au final, on devrait être autour de 7-8 millions de voix d'avance pour Joe Biden. C'est une victoire très nette. Dans les États clés, on disait dans la plupart des États clés que Joe Biden était en avance, mais avec une marge relativement serrée, ce qui laissait une certaine incertitude néanmoins. Mais il se trouve que Joe Biden a remporté la plupart des États clés qu'il devait remporter pour être élu président. Voilà. Donc je pense que l'idée selon laquelle les sondages se sont encore trompés est quand même un petit peu exagérée. On a beaucoup parlé le lendemain de l'élection de l'idée selon laquelle les sondages prévoyaient une vague bleue. Je pense qu'aucun institut de sondage américain n'a parlé de vague bleue avant l'élection. Et néanmoins, il prévoyait une victoire de Joe Biden qui s'est produite.
La presse américaine a ces dernières semaines beaucoup parlé des « shy Trump voters », ces électeurs timides de Trump, ces gens qui n'oseraient pas dire en face aux sondeurs d'opinion qu'ils votent Trump. Est-ce un phénomène qui s'est vérifié dans ce scrutin ?
C'est difficile à dire à ce stade, il faudra mener des enquêtes un peu plus précises. Effectivement, il y a eu néanmoins une légère sous-estimation du vote Trump, c'est vrai au niveau national et c'est vrai dans la plupart des États clés. Alors il faut comprendre d'où ça vient. Est-ce que ça peut venir d'un phénomène d'électeurs qui n'oseraient pas ou qui refuseraient d'avouer leur vote ? Ça semble pas très probable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que en France, par exemple, on avait ce phénomène dans le passé à propos des électeurs qui disaient voter pour le Front National. Une partie d'entre eux refusaient de le dire, mais c'était vrai quand on menait des enquêtes par téléphone, parce qu'il y avait un intervieweur, un enquêteur bien réel en face. Désormais, on mène des enquêtes, la plupart des enquêtes électorales sur des panels en ligne, et on n'a plus du tout ce phénomène. Le vote pour le Rassemblement National désormais est bien évalué. Or, aux États-Unis, les instituts de sondage mènent des enquêtes encore parfois par téléphone et parfois sur Internet, et il n'y a aucune différence entre ces deux modes de recueil. Et puis, plus globalement, si on se réfère à l'élection de 2016, c'est vrai que les sondages s'étaient trompés, mais ils s'étaient trompés uniquement dans 3 ou 4 États. Or, on a un peu de mal à comprendre pourquoi ces électeurs cachés de Donald Trump se situeraient uniquement dans 3 ou 4 États et dans tout le reste des États-Unis, les électeurs n'auraient aucun mal à avouer leur vote pour Donald Trump. Donc, ça serait un peu curieux. Mais il va falloir continuer à creuser pour savoir si cette légère sous-estimation elle est liée à ce phénomène ou à des difficultés de mesurer la mobilisation des différents électorats ou peut-être des problèmes d'échantillonnage. Ça va être le travail des instituts américains des prochains mois.
Dans l'atelier des médias, ces dernières semaines, on a fait deux émissions spéciales consacrées au rôle de Facebook et de son patron Mark Zuckerberg dans cette élection de 2020 aux États-Unis. On s'est rendu compte le 4 novembre, comme vous venez de le dire, que la base des électeurs de Trump était solide, qu'elle s'est même élargie par rapport à il y a 4 ans. Et ça, on le voyait, ou en tout cas, on aurait pu le voir venir en regardant de près l'activité des conservateurs sur Facebook. Question bête, mais vous servez-vous de ce que vous constatez sur ce réseau social pour apprécier autrement certains sondage d'opinion, ou alors pas du tout?
Dans la plupart des grands instituts, effectivement, il y a des équipes qui s'attachent à voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., et à l'analyser, que ça soit pour des clients privés, des entreprises qui s'intéressent à leur réputation sur les réseaux sociaux ou dans le cadre de campagnes électorales. Après, on prend pas vraiment ça en tête, en revanche, pour recalibrer nos échantillons de sondage, tout simplement parce que les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, Twitter, ça reste néanmoins une toute petite minorité de gens qui s'expriment du moins sur des sujets politiques. Donc il faut au contraire, de notre point de vue, faire très attention à pas surinterpréter ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux et à penser que ça reflète l'opinion de la grande majorité des électeurs. La plupart des électeurs, que ce soit en France comme aux États-Unis, ils s'intéressent pas énormément à la politique et clairement ils en parlent pas tous les jours de manière parfois un peu agressive ou virulente sur les réseaux sociaux. Donc je pense que au contraire, il faut faire attention à l'effet potentiellement inverse.
Au moment où nous parlons, des opérations de comptage et de recomptage sont en cours dans plusieurs États américains. Quand aura-t-on une carte électorale définitive ?
Aux États-Unis, le décompte des bulletins de vote prend beaucoup de temps et en 2016, on avait eu le décompte final qui donnait donc Hillary Clinton devant avec 2,9 millions de voix d'avance au niveau national à la mi-décembre. Cette année, a priori, ça devrait être encore le cas. Comme je vous disais, Joe Biden a 5 millions de voix d'avance, mais il manque une douzaine de millions de bulletins de vote à dépouiller, notamment dans des États démocrates comme la Californie, comme New York, comme le Maryland ou le New Jersey. Donc voilà. Ça prend beaucoup de temps, mais tout simplement parce que dans ces États, il n'y a pas vraiment de suspense. En fait, on sait très bien que Joe Biden les remportera. Et donc, le travail de décompte se fait avant tout sur les élections au Congrès ou sur des élections locales. C'est ça la priorité.
Pour continuer là-dessus, la sociologie du vote, c'est-à-dire d'être en mesure de dire, par exemple, si les femmes blanches de plus de 50 ans ont voté majoritairement pour Trump ou pour Biden, la connaît-on déjà assez précisément ou là aussi, il faudra attendre ?
On a des éléments déjà assez précis grâce aux sondages de sortie des urnes, c'est-à-dire cette année des sondages qui ont été menés auprès d'électeurs à la sortie des bureaux de vote, mais aussi auprès d'électeurs qui ont voté par correspondance. Donc on voit effectivement quelles sont les grandes tendances, qui a voté pour quel candidat, et s'il y a des évolutions par rapport à la précédente élection, celle de 2016. Ça, en plus, on peut le comparer, le confirmer en étudiant la carte électorale, par exemple, dans les comtés, c'est-à-dire à un niveau très fin, où on compte, par exemple, beaucoup d'Hispaniques, beaucoup d'Afro-Américains ou un électorat plutôt senior. Donc, on a déjà une idée qu'on pourra, effectivement, dans les mois à venir, confirmer, étayer avec des études universitaires et des analyses statistiques plus poussées.
Alors, votre métier de sondeur est un petit peu obscur pour certains, y compris pour les journalistes. En tout cas, c'est ce que vous me disiez en préparant cet entretien. Vous me disiez qu'il y a des journalistes qui ne savent pas vraiment ce que vous faites et vous me parliez notamment du redressement politique, une expression que j'avoue moi aussi ne pas comprendre précisément. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est ?
Non, c'est très simple en fait. Quand on fait un sondage, on cherche à avoir un échantillon représentatif de la population. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir, si je prends l'exemple de la France, une sorte de France miniature. On va faire en sorte d'avoir la même proportion d'hommes et de femmes dans notre échantillon que dans l'ensemble des Français âgés de 18 ans et plus, la même proportion de jeunes et de seniors, d'ouvriers, de cadres, la même proportion en termes géographiques. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Mais quand on réalise des sondages électoraux, on fait aussi évidemment attention à ce que notre échantillon il soit représentatif en termes électoraux, tout simplement. Donc on interroge les personnes qu'on sonde sur leur vote à la précédente élection présidentielle et on fait simplement en sorte d'avoir un échantillon qui soit aussi le reflet de l'électorat de l'élection de 2017. Ou, par exemple, si on va faire un sondage sur les élections régionales, des élections régionales. Mais voilà, on fait simplement en sorte d'avoir un échantillon représentatif en termes sociodémographiques, mais aussi en termes électoraux, et c'est assez simple, alors que c'est vrai que souvent ça nourrit beaucoup de fantasmes.
Et les marges d'erreur, comment les déterminez-vous ?
Les marges d'erreur, elles sont déterminées à partir de la taille de l'échantillon. Globalement, plus votre échantillon est large, plus la marge d'erreur est faible. C'est là encore un calcul relativement simple. Et effectivement, il faut prendre en compte cette marge d'erreur pour considérer la solidité des résultats d'un sondage.
Enfin, pour terminer, j'ai constaté, comme beaucoup de monde, qu'on voyait énormément de journalistes présenter, analyser les résultats dans les médias américains, des chiffres mis en perspective par des sachants devant des écrans sur CNN, Fox News, etc. On voit peu ça lors des scrutins dans le monde francophone. À quoi est-ce dû, selon vous ? C'est une histoire de culture journalistique vis-à-vis des chiffres ?
Bah, je pense effectivement que les journalistes américains ont plus de culture vis-à-vis à la fois quantitative, on va dire. Disons que chez les journalistes américains, il y a sans doute plus de connaissances vis-à-vis des sondages, vis-à-vis de l'analyse des résultats électoraux. Et puis tout simplement, quand on fait une soirée électorale aux États-Unis, ça ne se passe pas comme en France. C'est-à-dire qu'on l'a très bien vu dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Les chiffres mettent du temps à arriver, donc il faut bien combler ça et donner des premiers indices aux téléspectateurs, par exemple en analysant les résultats de certains comtés qui ont déjà dépouillé. En France, à 20h, grâce aux estimations fournies par les instituts de sondage, les résultats tombent, ce qui fait que effectivement, on peut tout de suite passer davantage à la confrontation politique entre les différents partis, enfin leur analyse des résultats, etc. C'est pas les mêmes temporalités, on va dire.
Merci Mathieu Gallard, Ipsos France.
Merci.
RFI.
L'incertitude des résultats, qui tombait comté par comté, état par état, les médias ont dû y faire face plusieurs jours durant. Aux États-Unis, ils sont plutôt habitués à cela, à chaque échéance électorale majeure. Mais là, au début, c'était vraiment très serré. En juin dernier, je recevais Sébastien Mohr, maître de conférences en culture et société des États-Unis à l'université de Lorraine, dans l'est de la France. Il m'a paru intéressant de le rappeler maintenant, lui qui est un spécialiste des médias conservateurs américains, comme le plus emblématique d'entre eux, j'ai nommé Fox News. Bonjour Sébastien Mohr.
Bonjour.
Fox News s'est beaucoup appuyé sur son Decision Desk, une équipe dédiée qui a permis à la chaîne de donner ses propres projections de résultats. Et c'est comme ça, par exemple, que Fox News a pu donner Joe Biden gagnant, parfois dans certains États, parfois même avant tout le monde et tous les autres médias américains, et notamment AP, Associated Press, qui est considéré comme faisant autorité dans le domaine. Et notamment, c'est arrivé sur un des États clés ou un État sur lequel il y avait des interrogations, c'est l'Arizona.
Oui, alors effectivement, il faut bien distinguer sur Fox, d'un côté, le service de l'information auquel est associé le service des sondages et le soir de l'élection, le service électoral, des émissions d'analyse politique qui, elles, sont tout à fait ralliées à Trump, qui lui apporte un soutien absolument indéfectible. Et donc là, ce qu'on a vu ces derniers temps se jouer, en fait, c'est une réactivation des antagonismes entre, d'un côté, le service de l'info et le service des émissions d'analyse politique. Je crois que ce qu'il faut bien souligner, c'est que même si effectivement Fox est une chaîne très partisane, qui affiche son parti pris, elle cherche aussi et avant tout à assurer la légitimité et la crédibilité de son service de l'information et surtout d'assurer sa crédibilité dans l'annonce des résultats. Donc c'est pour ça que son service électoral, son election desk, était piloté par quelqu'un qui a scrupuleusement analysé les résultats et qui a à cœur sa réputation et sa respectabilité avant le soutien de la chaîne à Trump.
C'est ça, et les journalistes de Fox News, quand ils ont donné l'Arizona pour Joe Biden, par exemple, ça a visiblement, selon certains médias américains, fait enrager Donald Trump et son équipe de campagne, qui aurait appelé directement Rupert Murdoch, qui est le propriétaire de Fox News, pour se plaindre. Et pour autant, eh bien, Fox News n'est pas revenu sur cette annonce.
Non, Fox News n'est pas revenu sur cette annonce, et on peut même dire que Fox News est en avance sur les autres réseaux hertziens et sur les autres organes de presse, puisque en milieu de semaine, Fox News annonçait 290 grands électeurs pour Biden, donc les 11 grands électeurs de l'Arizona, alors que le New York Times n'en était que à 259.
Alors, le soir du 3 novembre, le soir du vote, Donald Trump a fait une conférence de presse dont tout le monde se souvient, où il dit « j'ai gagné », il dit « j'ai gagné dans tel état », des états qui pourtant, pour certains, étaient déjà donnés à Joe Biden. Fox News n'a pas coupé cette intervention de Donald Trump, mais dans les jours qui ont suivi, il y a eu notamment une intervention de la porte-parole de la Maison-Blanche où elle déclarait sans preuve que l'élection avait été truquée. Et là, eh bien, Fox News a décidé de couper l'antenne. C'est une chose qui est très rare et qu'on a vu très peu sur Fox News ces derniers mois et ces dernières années.
Si mes souvenirs sont bons, c'est la première fois que ça arrive sur la chaîne. En revanche, c'est une tendance qui s'est affirmée depuis une bonne année dans les médias d'information grand public, puisque à partir du moment où Trump a été mis en accusation et qu'il se servait de ses points presse et de ses échanges avec les journalistes pour dévier la conversation vers des choses sans lien avec le thème de sa conférence de presse, les réseaux câblés se sont mis à interrompre la diffusion de ces points presse. Donc la première chaîne câblée qui a fait ça, c'est MSNBC, donc aux alentours de la fin 2019. Et puis on a vu ça à plusieurs reprises au printemps, également en juillet et le soir de l'élection. Les réseaux hertziens ont également interrompu la déclaration de Trump. Donc dans ce sens, Fox rejoint les médias grand public, et ce qui va toujours dans ce sens d'une volonté de préserver sa légitimité et sa crédibilité auprès de ses concurrents.
En préparant cette émission, vous m'avez dit qu'il était aussi important de parler du Sinclair Broadcast Group, le géant des télévisions locales conservatrices aux États-Unis, qui dispose d'une direction de politique nationale et avec parfois des phrases entières qui peuvent être envoyées à chacune des télévisions locales à répéter mot pour mot. Ce réseau, le Sinclair Broadcast Group, a pris fait et cause pour Donald Trump dans sa contestation des résultats.
Oui, effectivement, il y a eu deux cas très significatifs à cet égard et qui portent sur donc l'état du Nevada, dans lequel des républicains ont allégué que 3000 bulletins avaient été mis dans l'urne de façon frauduleuse, et puis dans le Michigan également, où on allègue que l'état compte des bulletins dont le cachet de la poste indique une date ultérieure au 3 novembre. Alors en fait, là, ce qu'il faut bien dire, il faut bien expliquer ce qu'est Sinclair Broadcasting Group. C'est un réseau qui est propriétaire d'à peu près 200 chaînes locales, donc de stations de télévision locales, qui elles-mêmes ont une affiliation avec des grands réseaux hertziens tels que ABC ou NBC. Et ces stations, en fait, elles diffusent les contenus de ces grands réseaux en prime time, mais dans les tranches horaires hors prime time, le contenu est censé être du contenu local. Et en fait, toute l'ingéniosité de Sinclair Broadcasting, c'est de remplir ces grilles en partie par des contenus qui sont favorables à Trump, qui sont favorables aux conservateurs. Et donc là, ce qu'on a vu se jouer dans le cas du Nevada, c'est que le correspondant politique en chef du réseau relaie ces allégations infondées et les relaie sans fournir le contexte dans lequel ces allégations ont été proférées, puisqu'en fait, elles ont été démenties. C'est-à-dire que l'idée que 3000 électeurs ont voté de façon illégale a été démenti. On peut voter aux États-Unis sans résider dans l'état dans lequel on vote pour tout un tas de raisons, parce qu'on a déménagé, parce qu'on est étudiant, parce qu'on, par exemple, on fait partie de l'armée. Et systématiquement, dans les moments où le correspondant politique du réseau a évoqué ces cas d'irrégularités, il n'a pas indiqué que le vote par des gens qui ne résident pas dans l'État était tout à fait légal et tout à fait acceptable. Et ce qui est assez frappant, c'est que ce segment a été diffusé sur une dizaine de stations dans plusieurs États, dont le Nevada. Et donc, on ne dit pas très nettement qu'il y a eu de la triche, mais on évite de contextualiser. Et puis, pour donner foi à ces allégations, on se limite à dire que Biden semble avoir de l'avance. On insiste sur le fort degré de polarisation de l'électorat qui expliquerait qu'on soit au coude à coude dans le Nevada. Et donc, c'est une stratégie extrêmement subtile, pernicieuse et qui correspond bien à la façon dont Sinclair agit. Pour ce qui est du Michigan, c'est pareil. L'idée que l'État serait en train de compter des bulletins dont le cachet de la poste est ultérieur au 3 novembre, c'est une idée qui a été démentie, parce que ce qui compte dans le Michigan, c'est que les bulletins arrivent le jour de l'élection avant la fermeture des bureaux. Mais ça n'a pas empêché le groupe Sinclair Broadcasting donc de publier des articles sur une dizaine de sites de stations locales, sur une vingtaine de pages Facebook, et de consacrer deux segments qui ont été relayés donc sur deux stations télévisées dans le Michigan et le Wisconsin.
Il y a un autre cas tout aussi particulier, c'est une petite chaîne qui s'appelle OAN, pour One American News Network, qui ne donne toujours pas Joe Biden gagnant au niveau national.
Oui, alors c'est vrai que c'est un cas tout à fait étonnant, parce qu'en fait, si on considère que Fox est un allié fidèle de Trump, One American News Network est l'allié absolument indéfectible. La chaîne s'est ralliée à Trump dès le début 2016 et elle a été proprement mise sur orbite par la candidature de Trump, puisque même si elle n'affiche pas des taux d'audience qui sont comparables à Fox, elle voit son audimat monter en flèche à partir du moment où elle diffuse en boucle les discours de Trump de façon ininterrompue. C'est une chaîne qui a toujours cherché à attirer l'attention de Trump, qui a toujours cherché à se faire remarquer de lui, à établir une relation privilégiée avec lui, sans réel succès au début. Mais la situation change au moment de la procédure de mise en accusation fin 2018. Et depuis ce moment, on voit que parfois, Trump se tourne vers One American News Network par le biais de tweets flatteurs, par exemple, surtout lorsque la relation avec Fox se distend un peu. Donc la réaction, la position de One American News Network n'est pas du tout étonnante. Je dirais que c'est une chaîne qui aborde l'actualité politique et qui couvre Trump sans absolument aucune distance. C'est une chaîne qui ne parle jamais des démocrates. Donc sur Fox, on parle des démocrates, ne serait-ce que pour établir un contraste avec Trump. On parle de sujets qui pourraient éventuellement être défavorables à Trump, mais en les traitant avec un angle pro-Trump, un angle conservateur. Sur One American News Network, il y a certains sujets qui disparaissent totalement des écrans, notamment, par exemple, les mouvements de contestation qui ont eu lieu à la suite des violences policières. Il faut ajouter aussi que récemment, au printemps dernier, il y a eu des rumeurs d'un projet d'investissement de la part de proches de Trump dans One American News Network pour dynamiser la chaîne, peut-être élargir sa distribution et éventuellement faire de One American News Network une chaîne entièrement dédiée à Trump dans l'optique où il n'aurait pas de deuxième mandat. Mais pour l'instant, cette question, elle est en suspens, mais on peut faire l'hypothèse que la chaîne serait en train de se positionner pour prendre la place de favorite auprès de Trump.
Alors justement, après le 20 janvier, à midi, heure de Washington, Donald Trump va retourner à la vie civile. Pourrait-on s'attendre à ce qu'il bénéficie, à ce que Donald Trump bénéficie d'un rendez-vous régulier sur une télé ou une radio conservatrice, typiquement sur OAN par exemple, parce qu'on sait que son empire va avoir besoin de liquidités et que la télé le payait bien à l'époque où il présentait The Apprentice par exemple?
Et oui, je crois que tout va dépendre de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, parce qu'effectivement, si Trump part de la Maison-Blanche, le Trumpisme, lui, ne va pas disparaître, la base de ses soutiens ne va pas disparaître, et tout ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est la légitimité qu'il va pouvoir continuer à avoir après sa présidence. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur la position des talk-shows du soir de Fox, parce que il faut que ces talk-shows puissent d'un côté faire admettre la victoire de Biden, mais continuer à asséner l'idée que c'est une victoire qui lui a été dérobée. Et si ces chaînes, si Fox News et One American News Network arrivent à entretenir l'idée jusqu'au 20 janvier que l'élection lui a été volée, et que ce sont donc les démocrates qui, avec la complicité des grands médias, sont parvenus à lui ravir l'élection, alors on peut imaginer que Trump aura un rôle central dans la vie politique après son passage à la Maison-Blanche, et qu'il conservera son rôle de leader incontesté du mouvement qu'il a lancé. Et en cela, donc, l'apparition dans ces médias, que ce soit les talk-shows de prime time de Fox ou One American News Network, sont tout à fait envisageables, et c'est un scénario qui est tout à fait probable.
Pour conclure, j'aimerais qu'on parle, on a constaté en fait la polarisation de la société américaine avec deux camps qui se font face en termes de voix. Donald Trump, au moment où on se parle, est autour de 70 millions de voix, donc du vote populaire au niveau national aux États-Unis. Joe Biden est environ à 75 millions de voix. Mais il y a une véritable polarisation, deux camps quasiment face à face. Et cela se traduit évidemment dans les médias par ce que vous qualifiez de deux bulles médiatiques.
Oui, effectivement, il y a deux bulles médiatiques. Alors, avec une nuance quand même, qui est qu'on constate une asymétrie notable entre les Américains qui s'identifient au Parti démocrate et ceux qui s'identifient au Parti républicain. J'en veux pour preuve une enquête qui a été réalisée à la fin 2019 et qui montrait que sur 30 médias dont on soumettait la liste à un échantillon représentatif des lecteurs, les républicains ne font confiance qu'à 7 d'entre eux. Alors que le rapport est inversé chez les démocrates, qui font davantage confiance qu'ils ne se méfient à 22 de ces médias. On peut aussi signaler que 65% des républicains font confiance à Fox News et que la deuxième source à laquelle ils font le plus confiance est la chaîne ABC avec 33%. Alors que ce qu'on voit du côté démocrate, c'est une consommation médiatique beaucoup plus diverse et une confiance accordée à un beaucoup plus grand nombre de médias. Donc une bulle médiatique qui certes existe, mais qui est beaucoup moins étanche, beaucoup plus poreuse. J'ajoute que cette méfiance des républicains envers les grands médias d'information, donc les médias d'information au grand public, a augmenté depuis 2014, puisque la comparaison avec une enquête similaire qui était parue cette année-là montre une forte augmentation de la méfiance des républicains envers 15 des 20 médias qui sont communs aux deux enquêtes. Donc on voit bien qu'il y a du côté républicain une chambre d'écho beaucoup plus étanche dans laquelle les messages réverbèrent et sont amplifiés. Ça ne veut pas dire que les républicains ne consomment pas d'autres médias, mais en fait, ils abordent les contenus de ces médias avec des schémas d'analyse qui ont été développés en regardant Fox, et donc ce qui, d'une certaine façon, les prémunit des effets de persuasion. Je crois qu'on peut aussi ajouter les résultats d'une autre étude qui est parue très récemment et qui montre vraiment un différentiel d'opinion entre les républicains qui suivent Fox et ceux qui ne suivent pas Fox, ou en tout cas qui font moins confiance à Fox. Par exemple, je peux vous citer le chiffre très significatif de 58% de républicains qui ne suivent pas Fox, qui considèrent que le pays va dans la bonne direction, et c'est 79% pour les républicains qui suivent Fox. Et donc systématiquement dans cette enquête, on voit qu'il y a un différentiel de 15-20% entre ces deux catégories, ce qui montre que le degré d'adhésion aux positions phares de Trump est beaucoup plus fort chez les fidèles de Trump, et donc ce qui alimente cette polarisation de l'électorat.
Il y a une expression par contre qui va rester, c'est celle de fake news qui a été vraiment popularisée par Donald Trump, dont il s'est servi pour qualifier des médias.
Oui, cette expression, à mon sens, elle s'est naturalisée dans le débat public, pas simplement aux États-Unis, de ce côté-ci de l'Atlantique également. Et c'est une question qui va demeurer centrale. Le fait que une part des citoyens refusent de croire en la sincérité des grands médias, mais prête crédit à d'autres sources alternatives, est un phénomène qui ne va pas disparaître du tout avec Trump, à mon sens. Toute la question, c'est de savoir en fait pourquoi est-ce que certaines personnes sont prêtes à croire ces contenus, même quand on leur apporte la preuve de leur fausseté. Et ça, c'est une question qui dépasse en fait le strict cadre des médias et qui met en jeu des questions culturelles.
Merci beaucoup, Sébastien Mohr.
Merci.
Je rappelle que vous êtes maître de conférences en culture et société des États-Unis à l'Université de Lorraine et membre du CREM, le centre de recherche sur les médiations. À bientôt dans l'atelier des médias.
À bientôt. It feels so good it should cost. Brought an alligator, I ain't talking Lacoste. Made me say, like a mix of Master P and Rick Ross. She seen to make me always feel like a boss. She said I'm in the wrong hole, I said I'm lost. She said I'm going too fast, I'm exhausted. Now drop to your knees for the offering. This the theme song, or something wrong. Might need an intervention for this new dimension. That's too new to mention, won't fit in a sentence. If I get locked up, I won't finish the sentence.
Atelier @
Dans l'atelier des médias de RFI, on s'intéresse beaucoup aux coulisses des médias. J'ai donc été naturellement très intéressé par un épisode du podcast 2020 de l'agence France Presse, enregistré sous forme de reportage dans les bureaux de l'AFP à Washington durant la nuit électorale. Antoine Boyer, qui produit et réalise ce podcast, est avec moi. Bonjour Antoine.
Bonjour Steven, merci.
Pourquoi avoir voulu enregistrer cet épisode spécial du podcast 2020 en tendant votre micro aux journalistes présents dans la salle de rédaction de l'AFP à Washington durant cette soirée électorale?
Parce que je pense que l'idée, c'était de saisir l'atmosphère un peu live de ce qui était en train de se passer. Vous savez, une rédaction d'une agence, c'est une bulle sonore, en fait. Vous avez souvent des bruits d'alerte qui résonnent dans toute la salle de rédaction. Et je me disais que l'AFP a la chance d'avoir une grande rédaction à Washington et que c'était le moment de montrer les coulisses de l'information, comment l'information se fabriquait en temps réel au soir de l'élection la plus scrutée dans le monde entier.
L'épisode dont on va parler aujourd'hui commence à 7h du soir, heure de Washington DC, par un mot d'Hervé Rouache, le rédacteur en chef. Il donne le coup d'envoi de la soirée et rappelle les mesures sanitaires liées au Covid. C'est la première fois que vous étiez de retour aussi nombreux dans les bureaux de l'AFP à Washington depuis le début de la pandémie ?
Oui, oui, c'était la première fois qu'on était aussi nombreux depuis le début de la pandémie. Après, il faut savoir qu'à Washington, le nombre de cas est assez bas et on a essayé de respecter au maximum les gestes barrières. On a pris de nombreuses précautions.
Dans cet épisode, on entend également une bonne douzaine de personnes de l'AFP qui racontent très concrètement ce qu'ils sont en train de faire à chaque instant. Et on se rend compte du dispositif énorme de l'AFP autour de cet événement, un dispositif qui est totalement multimédia. C'est-à-dire, il y a de la photo, il y a de la vidéo et il y a des pêches d'agence.
C'est ça. En fait, si vous voulez, le bureau de Washington, il est configuré ainsi. Vous avez ce qu'on appelle le desk. Donc, c'est un desk d'édition qui reçoit toutes les alertes, tous les urgents, toutes les dépêches, qui relie, qui envoie. Ensuite, vous avez les desks de reporters, donc qui écrivent ces alertes, ces urgents, ces dépêches. Ensuite, vous avez un peu la régie vidéo, la régie live, qui coordonne toute la couverture vidéo dans tous les États-Unis. Ensuite, vous avez le desk vidéo qui édite ces vidéos live pour les envoyer aux clients. Ensuite, vous avez le desk photo où ils reçoivent les photos de tous les photoreporters partout aux États-Unis. Il faut savoir que ce soir-là, je crois qu'ils ont envoyé 1300 photos, donc c'est quand même une énorme production. Et ensuite, vous avez le bocal de la rédaction en chef qui supervise toute la couverture.
Une chose qui m'a interpellé dans votre reportage, c'est ce bip qui retentit dans la salle de rédaction à chaque alerte, et chaque alerte dans chacune des langues de l'AFP. On va rappeler que l'AFP compte 6 langues, hein, le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le portugais et l'allemand. Alors là, vous, votre podcast s'achève dans la nuit du 3 au 4 novembre à 4h30 du matin. C'est une production éditoriale qui montre les cuisines de l'info. On sait que les cuisines de l'info intéressent souvent le public. Est-ce que vous avez déjà une idée des chiffres d'audience de ce podcast ?
Oui, il marche plutôt bien si on compare aux autres épisodes. Il caracole en tête. Je pense que c'est un épisode qui peut plaire parce que effectivement, voilà, on montre les cuisines de l'AFP, les coulisses du journalisme. Et j'ai essayé, on a tous essayé d'être le plus pédagogique possible pour montrer comment se fabriquait l'information. Et donc, j'espère que ça peut plaire.
Et puis l'épisode a été réalisé en un temps record, hein, parce que c'était dans les heures suivant l'enregistrement qu'on pouvait le retrouver sur le flux podcast de 2020.
Oui, en fait, on a commencé à tourner à 19h, heure américaine. La plupart de mes collègues sont partis vers 4-5 heures. Et ensuite, moi, je me souviens avoir enregistré la conclusion à 5h30. Le podcast est sorti à 8h30, heure américaine, donc 14h30 chez vous à peu près.
Alors j'ai compté au total, hors série compris, 52 épisodes de 2020. Un des plus récents, c'est le 8 novembre avec un portrait du président élu Joe Biden. 2020 avait été lancé en novembre 2018, durant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Que va devenir ce podcast dans les semaines qui viennent ?
Alors c'est une bonne question et 2020 va s'arrêter. Je viens de sortir le dernier épisode, donc c'était l'année 2020, elle est presque terminée. Et donc pour l'instant on arrête ce programme, mais une bonne nouvelle, vous pouvez quand même écouter ou réécouter de nombreux épisodes de 2020 qui en fait ne vieillissent pas tellement, puisque l'épisode de la nuit électorale américaine, vous pouvez le réécouter, c'est un document qui sera réécoutable même si maintenant vous connaissez la fin. Pareil pour le portrait de Joe Biden, ou je pense aussi à un épisode que j'ai fait sur les mensonges de Donald Trump, qui s'appelle Donald Trump, la vérité si je mens, même s'il n'est plus président, le rapport du futur ancien président aux faits sera peut-être toujours discutable. Donc voilà, vous pouvez encore réécouter, je crois, de nombreux épisodes.
Merci beaucoup Antoine Boyer.
Merci beaucoup Steven.
Je rappelle que vous êtes journaliste pour l'AFP à Washington et je rappelle que 2020, votre podcast fait d'entretiens et de reportages aux États-Unis, est disponible gratuitement sur toutes les plateformes. À bientôt Antoine.
À bientôt, merci.
On approche de la fin de cette émission. C'est maintenant le moment de Mondoblog Audio qui donne la parole aux blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, on va entendre une mondoblogueuse togolaise qui vit aux États-Unis. Jifa Nami nous propose de revivre la campagne présidentielle américaine de 2016. Elle raconte l'élection inattendue de Donald Trump face à de nombreux électeurs incrédules.
New York City, it's the benchmark for success. Believe me, I know.
En 2016, au début de la campagne présidentielle aux États-Unis, Donald Trump n'était pas pris très au sérieux. On riait bien parce qu'au début, c'était vraiment drôle. Nous assistions à un spectacle digne d'un grand cirque et Trump était l'attraction principale.
My name is Donald Trump and I'm the largest developer in New York. I even have a television show.
Quand les sondages comptaient Donald Trump dans les 10% d'intention de vote et qu'on rigolait à gorge déployée de ses réparties les plus farfelues, on était bien loin d'imaginer que quelques mois plus tard, il passerait la barre des 30%. On a donc beaucoup ri, surtout du côté républicain. Côté démocrate, les candidats restaient assez raisonnables, pour ne pas dire ennuyeux. Avec le tango des sondages, c'était difficile de savoir où donner de la tête. Mais à l'été 2016, la plupart des sondages, qui donnaient Hillary Clinton favorite, ont annoncé que c'était désormais Trump qui menait la danse. Il faut bien reconnaître que Donald Trump est un génie du show politique. Il a su utiliser les médias en sa faveur. Sa devise, toute publicité est bonne publicité. Qu'on parle de lui en bien ou en mal, ce n'est pas le problème, pourvu qu'on en parle. Créer le buzz par tous les moyens. Et ça a marché. Il a été hyper médiatisé, il est monté dans les sondages et s'est finalement retrouvé en tête chez les Républicains. Petit à petit, les rires se sont transformés en grincements de dents, accompagnés de grosses sueurs froides. Que deviendrons-nous s'il devenait président ? La nuit électorale du 8 novembre 2016, on s'en souviendra longtemps. La surprise de la victoire de Donald Trump a envoyé comme une onde de choc dans le monde entier. Trump président, qui l'aurait cru ? Aujourd'hui, fini la rigolade. Donald Trump nous en aura fait voir de toutes les couleurs. Sans filtre, il continue à déballer tout ce qui lui passe par la tête. J'en ai plus qu'assez de voir Trump sur tous les écrans. Avec ses diatribes misogyno-racistes et son ton grandiloquent d'homme imbu de lui-même. Il avait promis une Amérique winneuse, super puissante, où les Américains seraient prospères et heureux, et où le reste de la planète craindrait l'Amérique, maître du monde. Ses militants y ont cru dur comme fer. Il s'en est pris à tout ce qui le gênait, les Mexicains, les Chinois, les musulmans et les femmes. Aujourd'hui, Trump a approfondi les divisions aux États-Unis. L'Amérique nouvelle, celle dont on rêvait avec Obama, est devenue isolationniste et anti-immigrant. Les apprentis winners peuvent enfin sortir tout ce qu'ils ont sur le cœur. Comme une catharsis publique, leur haine s'exprime ouvertement. C'est donc cela, Make America Great Again.
Mondoblog.org.
C'était la mondoblogueuse togolaise Jifa Nami qui vit aux États-Unis. Vous pouvez retrouver ses articles sur son blog jifa.mondoblog.org. C'est la fin de cette émission. Si vous l'avez prise en cours de route à la radio, elle est disponible dès maintenant et en version longue en podcast. Abonnez-vous à l'atelier des médias de RFI sur l'application de votre choix. Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore Apple Podcast. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux ou par mail atelier@rfi.fr. Je remercie comme chaque semaine Simon De Creuse qui a réalisé cette émission et Camille Deloche qui a piloté Mondoblog Audio. Je m'appelle Steven Jambeau, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.